bonsoir. Je ne savais pas que je portais une aussi lourde responsabilité dans la vie locale à Montargis. Je vais essayer maintenant en une heure et demie, probablement plus une heure et demie qu'une heure, parce que je suis un horrible bavard. Je vais essayer de vous faire un point sur deux éléments qui vont probablement imprimer leur marque de manière croissante sur le 21e siècle, qui sont la question de l'énergie et du changement climatique. Je vais probablement, comme vous allez le voir, un peu naviguer entre les deux, parce que c'est deux dossiers qui sont assez liés. J'espère que l'exposé introductif sera relativement clair. Ce que je vous propose, c'est de renvoyer toutes les questions de fond au débat qui suivra. Par contre, si jamais il y a quoi que ce soit qui est fumeux ou obscur dans ce que je peux vous dire pendant l'exposé, un terme que vous ne comprenez pas, une explication qui vous semble manquer, etc., n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me pose absolument aucun problème. Alors, la première chose que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que si aujourd'hui le dossier énergétique et le dossier climatique méritent examen, c'est pas tellement pour des raisons qualitatives, mais c'est pour des raisons quantitatives. En d'autres termes, on n'a pas introduit dans la planète des choses qui sont qualitativement nouvelles par rapport à ce qui se passait il y a quelques siècles ou quelques milliers d'années. Par contre, on a introduit des choses qui sont quantitativement nouvelles, c'est-à-dire qu'on est en train de provoquer un changement d'ordre de grandeur dans un certain nombre de choses. Alors, par exemple, le fait qu'on utilise de l'énergie, c'est quelque chose de très ancien. La domestication du feu, qui est la première forme d'énergie que l'homme ait maîtrisée, ça date d'il y a un demi-million d'années, donc c'est pas quelque chose qui date d'hier. Les énergies qu'on appelle des nouvelles renouvelables, elles sont en fait extrêmement vieilles. Le vent a accompagné le début de la marine à voile. Le soleil a été utilisé dans l'Antiquité. L'eau a été utilisée dans l'Antiquité. Le vent a été utilisé dans l'Antiquité aussi pour faire tourner des moulins, etc. Donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles renouvelables, c'est en fait des choses qui sont extrêmement vieilles. Et si ça a été supplanté depuis le début de l'époque industrielle par les combustibles fossiles, il y a bien des raisons qui sont liées à la physique et pas seulement au complot planétaire d'une bande d'abrutis. En ce qui concerne les énergies fossiles, il faut savoir aussi qu'elles aussi sont multimillénaires. Le pétrole est connu des Sumériens il y a plusieurs milliers d'années. Le charbon est connu des Chinois il y a plusieurs milliers d'années. Donc ça, c'est pas des énergies nouvelles non plus. Encore une fois, ce qui a changé, c'est l'ordre de grandeur. La seule énergie vraiment nouvelle du XXe siècle et même du deuxième millénaire, c'est l'énergie nucléaire. Toutes les autres sont anciennes. Ce qui a caractérisé le 19e et le 20e siècle, comme vous allez le voir maintenant, encore une fois, c'est pas la découverte de ces énergies, c'est le changement d'ordre de grandeur dans leur utilisation. Alors, une première raison du changement d'ordre de grandeur dans leur utilisation, c'est ça. C'est le fait qu'il y a de plus en plus de consommateurs sur la planète. Et quand on dit de plus en plus, c'est vraiment beaucoup plus depuis pas longtemps. À l'échelle des temps géologiques et même à l'échelle des temps historiques, vous voyez qu'on aboutit quand on a quelque chose qui est extrêmement violent, qui fait plus penser à une supernova qu'à une évolution douce. Soit dit en passant, il y a une petite réflexion philosophique qu'on peut en tirer. Si on imagine que la Terre va encore porter quelques milliards d'hommes pendant quelques siècles, eh bien, on aboutit à cette conclusion mathématique étonnante qui est que nous ferions partie des premiers pourcents de l'humanité étant appelée à exister sur Terre. On ferait partie des 5 ou des 10% premiers hommes de l'humanité étant appelée à exister sur Terre. Voilà, je vous laisse méditer cette conclusion. Bien évidemment, là, on a un système qui n'est pas à l'équilibre, donc il est parfaitement prématuré de savoir si la Terre pourra supporter quelques milliards d'hommes pendant quelques siècles. Pour le moment, il n'y a que des calculs d'ordre de grandeur qui permettent évidemment éventuellement de répondre à ce genre de questions, mais pas l'expérience. La deuxième chose qui a changé sur le cours du siècle qui s'est écoulé, c'est la quantité d'énergie consommée par terrien. Alors, vous voyez sur cette... Alors là, il s'agit bien de par terrien, hein. Donc ça inclut non seulement les riches américains qu'il faut pendre, mais aussi les habitants du Gâtinais, les habitants de la Mongolie inférieure et les habitants du Brésil, hein. Donc là, il s'agit bien de par terrien. La consommation d'énergie hors bois a été multipliée en gros par 7 en un siècle. Alors, la stabilisation apparente que vous avez depuis 1975 est en fait une illusion due à l'arithmétique. C'est simplement dû au fait que la population qui se trouve sous la moyenne en consommation d'énergie par habitant croît plus vite que la population qui est au-dessus de la moyenne. Et alors, vous pouvez vous amuser à faire le calcul. Du coup, vous avez une moyenne qui est stable, malgré que la consommation d'énergie par habitant continue d'augmenter un peu partout. Hein. Donc, c'est simplement une illusion due à l'arithmétique. Alors, cette consommation d'énergie... elle vous amène, à vous, à moi, l'équivalent en France d'une centaine d'esclaves en permanence. C'est-à-dire que si on s'amuse à calculer l'énergie mécanique développée par un homme au travail, eh bien vous vous rendez compte que si on devait demain matin remplacer les tracteurs, les machines industrielles, les ascenseurs, les avions, les voitures, les trains, etc., par des esclaves, par des gens en train de pédaler ou en train de faire fonctionner leurs bras, eh bien chacun d'entre vous, et moi compris, on en a une centaine à notre service. Voilà, c'est ça la consommation d'énergie d'un Français d'aujourd'hui. Et quand je dis d'un Français, ça inclut tous les gens dans cette salle. Il ne s'agit pas seulement de la consommation de M. Seyer ou de Mme Bettencourt. C'est bien évidemment ça aussi qui va nous poser problème. Alors vous voyez que ces esclaves des temps modernes, en tout bien tout honneur, on en a dans un certain nombre de choses pour lesquelles la physionomie a été radicalement transformée ces dernières années, dont l'agriculture. Hein. Si vous convertissez en énergie mécanique les paires de bras que fournit le tracteur, convertissez en esclaves les paires de bras que fournit le tracteur, et ben vous tombez sur cette conclusion que on a à peu près chacun d'entre nous 20 personnes à notre disposition, l'équivalent de 20 personnes à notre disposition pour nous nourrir. Ce qui nous permet, notamment, enfin on abordera le sujet plus tard, contrairement aux paysans du temps d'Henri IV, de manger quelques dizaines de kilos de viande de bœuf et une centaine de kilos de viande tout court par personne et par an. Si chacun d'entre nous on cultivait avec sa paire de bras son lopin de terre, on n'aurait pas une consommation de viande identique à notre service. Donc on mange du pétrole au sens littéral du terme. Alors, sans grande surprise, la quantité globale d'énergie consommée par l'humanité, vous voyez qu'elle a très fortement augmenté, puisqu'elle est le produit de l'augmentation démographique et de l'augmentation de la quantité d'énergie consommée par personne, elle a très fortement augmenté sur le dernier siècle et demi, enfin depuis le début de la révolution industrielle. Ce qui veut dire, soit dit en passant, on va retrouver cette conclusion pour les émissions de CO2 aussi, que depuis le début de la révolution industrielle, qui est la date à laquelle on a inventé l'économie moderne, Monsieur Ricardo, Monsieur Smith, etc., tout ça c'est la première moitié du 19e siècle, la croissance économique, la croissance industrielle et la croissance de la quantité d'énergie consommée sur Terre ont toujours été de pair. Donc aujourd'hui, faire de la croissance économique sans augmenter la quantité d'énergie qu'on consomme et, vous allez le voir plus tard, sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, on ne sait pas faire pour le moment. Vous voyez aussi que, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes quand vous vous en doutez, vous voyez aussi sur ce graphique quelque chose d'intéressant, c'est que aucune forme d'énergie n'a décru. On dit souvent que le charbon est une énergie du passé, c'est parfaitement faux. Les deux tiers du charbon extrait sur Terre servent à faire de l'électricité, et l'électricité est parfaitement une énergie d'avenir. Vous savez peut-être pas, mais les Américains font plus de 50% de leur électricité au charbon. Un Américain, de ce fait, consomme 4 fois plus de charbon qu'un Chinois, donc le charbon n'est pas du tout l'énergie des pays pauvres, c'est l'énergie des pays riches. Dans l'OCDE, à peu près 40% de l'électricité est faite au charbon. Donc le charbon est une énergie qui continue une croissance forte, hein, qui poursuit une croissance presque aussi forte que celle du pétrole. Vous voyez que le pétrole n'a pas tué le charbon, que le gaz n'a pas tué le pétrole, etc. Vous pouvez continuer l'empilement vers le haut. Aucune forme d'énergie n'a cru de manière telle qu'elle est comprimée, amenée la décrue d'une autre forme d'énergie pour le moment. Alors sans grande surprise, les émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles ont aussi très fortement cru depuis le début de la révolution industrielle. Alors soit dit en passant, les combustibles fossiles, on les appelle comme ça parce que c'est des fossiles. C'est aussi bête que ça. Le charbon, c'est un fossile de fougère qui a poussé à l'ère du charbon, carbonifère, il y a 2 siècles et demi. Et le pétrole, c'est du fossile de plancton, enfin c'est ce qui reste après un processus qui a un très mauvais rendement de sédimentation du plancton. Et qui met entre quelques millions et quelques dizaines de millions d'années à se constituer. Donc c'est parfaitement renouvelable si vous avez quelques dizaines de millions d'années devant vous. Donc vous voyez que depuis le début de la révolution industrielle, donc les émissions de CO2 provenant du gaz, du pétrole, du charbon, puisque c'est ça les combustibles fossiles, ont fortement cru. Et vous voyez que le seul moment où vous avez des petites indentations dans la croissance, c'est quand il y a eu des grands troubles économiques. Vous reconnaissez la première dent, là, c'est la crise de 29 et tout ce qui s'en est ensuivi, que vous, normalement, vous connaissez. Et puis, vous avez les deux chocs pétroliers de 74 et 79 qui sont également marqués. Vous avez toujours une petite pause en 90, là, après aussi la récession, la micro-récession qu'il y a eu en 90. Puis derrière, c'est reparti à la hausse. Alors, ce CO2 qu'on émet, on a un problème, c'est qu'il contribue à une augmentation de la quantité de CO2 dans l'air. Alors, vous avez sur la courbe du bas la concentration en CO2 dans l'atmosphère sur les 400 derniers milliers d'années. Alors, c'est obtenu en faisant des trous dans la glace de l'Antarctique. Alors, il faut faire attention à une chose dans les courbes des gens qui font des trous, c'est qu'ils ont tous tendance à graduer en fonction de la profondeur atteinte. Donc, et plus vous ferez profond, et plus vous allez loin dans le passé. Ce qui fait que toutes ces courbes, elles se lisent de droite à gauche. Donc, c'est moins 400 000 ans à droite, puis moins 300 000 ans, puis moins 200 000 ans, puis etc. Alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver du CO2 dans la glace ? C'est à cause du fait qu'en Antarctique, comme vous le savez, la température ne redevient jamais positive. Donc, les chutes de neige que vous, qui tombent année après année finissent par se tasser sous l'effet du poids des chutes qui suivent, et par se transformer en glace sous l'effet de cette pression. Alors c'est quand même un processus qui ne va pas très vite, il faut de l'ordre du siècle pour que la neige se transforme en glace. Et dans ce processus de transformation, on emprisonne de l'air ambiant sous forme de petites bulles que vous allez retrouver dans la glace. Donc vous avez un témoin fossile de l'époque de formation de la glace. Alors après cette glace, elle fait comme dans un glacier des Alpes, elle s'écoule, alors elle va vers le bas, vers le socle de l'Antarctique, et puis comme elle ne va pas très vite, si vous forez un trou profond en Antarctique, vous retrouvez de la glace vieille de quelques centaines de milliers d'années. Et vous avez la possibilité, parce qu'une fois qu'il est dans la petite bulle d'air, le CO2 il bouge plus, il est chimiquement inerte, hein, vous avez la possibilité donc d'aller retracer des quantités de CO2 dans l'atmosphère sur de très longues époques. Alors sur la courbe du bas, vous voyez que donc sur les 400 derniers milliers d'années, cette quantité de CO2 dans l'air, elle a oscillé entre 200 et 280, ce qu'on appelle parties par million, c'est des millilitres par mètre cube, hein, en gros, donc c'est pas beaucoup. Et puis vous voyez que depuis le début de la révolution industrielle, on était à 280, donc on y était depuis 10 000 ans, en gros. Hein. Les différents symboles en haut renvoient à des forages différents qui ont été faits en Antarctique. Et crac, on a une très belle exponentielle derrière, avec la concentration de CO2 qui augmente, qui augmente. Alors en 2000, on était à 360 et aujourd'hui, on est quasiment à 380. Il ne fait aujourd'hui aucun doute dans l'esprit de la communauté scientifique que cette hausse est bien imputable à notre espèce. Il y a des moyens divers de recouper cette affaire. On peut faire des analyses isotopiques, on peut faire... Enfin bon, bref, il y a des tas de moyens de montrer que il n'y a pas tellement de doute. C'est bien nous. Et si vous mettez cette hausse à l'échelle sur la courbe du bas, ben vous avez un très beau trait vertical parce que une graduation sur la courbe du bas, c'est quand même 10 000 ans. Hein. Donc ce que la nature sait faire toute seule, c'est de faire prendre 80 parties par million au CO2 dans l'atmosphère en 10 000 ans. Nous, on vient de faire exactement la même chose en 2 siècles. Alors, en fait, on n'a pas encore fini de voir les conséquences, ne serait-ce que de cette hausse, sans parler de ce qui pourrait arriver plus tard. Si vous regardez les autres gaz à effet de serre, dont je vais vous parler un peu plus tard, vous voyez que le méthane, le protoxyde d'azote et puis des halocarbures, eh bien vous voyez qu'ils suivent tous le même chemin. En d'autres termes, depuis le début, alors pour le méthane, c'est encore plus ancien, parce que le méthane est un gaz très lié aux activités agricoles, donc c'est encore plus ancien, c'est depuis le début de la révolution agricole, 1750, vous voyez qu'on a une augmentation, et le méthane, on a plus que doublé sa concentration dans l'atmosphère. Le protoxyde d'azote est aussi très lié aux activités agricoles, et là on l'a augmenté seulement de 15%. Enfin, vous voyez, ça monte partout. Alors, pourquoi est-ce que tout ça c'est un problème ? Je vais essayer de vous montrer sur cette petite animation comment est-ce que l'homme interfère dans un processus, l'effet de serre, qui lui est un processus parfaitement naturel. Alors, cette animation, elle a été faite par les vignerons champenois. Vous voyez, il y a des tas de gens qui s'intéressent à la question. La machine climatique, elle est comme toutes les machines, hein, finalement, elle est comme un vélo ou un robot mixeur. Pour fonctionner, elle a besoin d'énergie. Alors l'énergie de la machine climatique, c'est le soleil qui nous l'amène. Vous savez qu'il y a aussi de l'énergie qui provient des entrailles de la Terre, ce qu'on appelle l'énergie géothermique. Le rapport de l'un à l'autre, c'est 1 pour 10 000. En d'autres termes, l'énergie géothermique vaut 1 et le soleil vaut 10 000. Donc en première approximation, on oublie ce qui vient des entrailles de la Terre, ça compte pas. Donc c'est l'énergie solaire qui nous amène l'énergie qui met en route la machine climatique. Cette énergie solaire, il y en a une partie, un tiers à peu près, qui va être réfléchie par les nuages, c'est-à-dire qu'elle repart directement vers l'espace sans avoir eu le temps d'alimenter, on va dire, la machine climatique. Puis vous en avez une petite partie qui est absorbée par l'atmosphère, etc. Et vous en avez à peu près la moitié qui est absorbée par le sol. Alors quiconque s'est doré sur une plage l'été ou même dans un jardin sait très bien que quand on s'expose à la lumière du soleil, on s'achauffe. Hein. C'est une autre manière de dire qu'on emmagasine de l'énergie. Alors, vous savez aussi probablement que les systèmes physiques, ils adorent une situation, celle de l'équilibre, dans laquelle ils restituent autant d'énergie qu'ils en reçoivent. J'aime beaucoup ça, les systèmes physiques. Alors, le sol, il a trois moyens à sa disposition pour restituer cette énergie solaire qu'il a absorbée. Son premier moyen, c'est de la chaleur de contact. Vous faites passer de l'air au-dessus du sol et la chaleur se transmet par contact à l'air. Alors ça, c'est fondamental pour le fonctionnement de l'atmosphère parce qu'elle est chauffée par le bas. C'est quelque chose de très particulier. Enfin, ça explique énormément de choses qui n'arriveraient pas sinon. Le deuxième moyen que vous avez pour restituer de l'énergie à l'atmosphère, c'est à travers l'évaporation. Vous savez que quand on évapore de l'eau, ça consomme de l'énergie. Et du reste, pour qu'il continue à s'évaporer de l'eau sous une casserole d'eau bouillante, il faut laisser le feu allumé. Si vous arrêtez, ça s'évapore moins bien. Et la Terre est une énorme machine à évaporer puisqu'elle est couverte aux deux tiers d'eau. Hein. Donc c'est aussi ça quelque chose qui restitue énormément d'énergie à l'atmosphère. Et puis vous avez un troisième moyen que le sol a de restituer son énergie, c'est à travers du rayonnement infrarouge. Alors, le rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement qui ressemble à la lumière, hein, c'est de même nature. Ça porte le nom barbare de rayonnement électromagnétique, comme la lumière, mais il n'est pas de même longueur d'onde, donc ce qui fait que notre œil, par exemple, ne le voit pas, mais avec une caméra appropriée, vous arrivez à le voir. Météo France a des satellites qui travaillent dans l'infrarouge, donc c'est un rayonnement qu'on peut quand même détecter. Et c'est un rayonnement qui est émis par des corps qui sont au voisinage, enfin qui sont dans la gamme de température que vous avez sur le sol terrestre, hein. Aux alentours de 0 degré, entre moins 30 et plus 40, eh bien, vous émettez de l'infrarouge. Et cet infrarouge, il va lui arriver quelque chose qui n'était pas du tout arrivé à la lumière du soleil, c'est qu'il est à peu près totalement intercepté par l'atmosphère. Donc vous avez ce qu'on appelle une différence de transparence au rayonnement. Vous et moi, on en a tous une différence de transparence au rayonnement. Vous savez qu'on est parfaitement opaque à la lumière. C'est pour ça qu'il faut qu'on bouge son pied pour que le voisin puisse voir la mer. Mais par contre, on est à peu près transparent aux rayons X, qui sont un rayonnement de même nature que la lumière, mais avec des longueurs d'onde beaucoup plus courtes. Bah, là, dans l'atmosphère, c'est exactement pareil. Vous avez des gaz qui laissent très bien passer la lumière solaire et qui laissent extrêmement mal passer les infrarouges émis par la surface de la planète. Alors, comme l'atmosphère a intercepté ces infrarouges, eh bien, elle a emmagasiné de l'énergie, et eh bien, même motif, même punition pour le sol, elle va chercher à s'en débarrasser de cette énergie, et elle n'a qu'un seul moyen à sa disposition, c'est aussi des infrarouges. Alors, si vous vous mettez à cheval sur la sonde Cassini et que vous regardez la Terre vue de Saturne, eh bien, vous avez un système qui est en quasi-équilibre. Hein, c'est une baignoire où il rentre à peu près ce qui sort, c'est-à-dire que ce qui est réémis et ce qui arrive s'équilibre à peu près. Mais vous voyez que dans cette affaire, vous avez aussi récupéré un terme de chauffage supplémentaire du sol, c'est-à-dire que dans les infrarouges émis par l'atmosphère, vous en avez une partie qui retourne au sol. Donc la Terre, elle est plus chauffée que s'il n'y avait pas d'atmosphère. En gros, si vous allez prendre la température moyenne de la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, eh bien, vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 30 degrés en dessous de la température de la Terre. Et ces 30 degrés en moins, ils correspondent au fait que sur la Lune, vous n'avez pas cet effet qui s'appelle l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est ça. C'est vous empêcher le rayonnement de s'évacuer facilement et vous en, pas réfléchissez, mais vous en réémettez une partie vers le sol. Ça, c'est l'effet de serre. Ça s'appelle comme ça parce que dans une serre, il se passe exactement la même chose. La vitre de la serre, elle est transparente à la lumière et elle est opaque au rayonnement infrarouge émis par l'intérieur de la serre. En plus, vous avez un effet de confinement mécanique, mais ça vient se rajouter. Donc vous avez un donc voilà l'effet de serre. Alors vous allez voir plus tard que l'effet de serre, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ce que nous faisons, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec nos activités modernes ou moins modernes, puisque l'agriculture y participe, et vous savez que l'agriculture c'est quand même vieux de 10 000 ans, on est en train de changer la composition chimique de l'atmosphère en l'enrichissant en gaz à effet de serre. Je vous ai montré tout à l'heure, on l'enrichit en CO2, on l'enrichit en méthane, pardon, on l'enrichit en protoxyde d'azote. On l'enrichit en des gaz qui ont des noms barbares qui s'appellent les halocarbures, et donc, dont la première famille c'est les CFC, vous connaissez tous, hein, et donc on enrichit l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors, ce faisant, on la rend encore plus opaque qu'elle n'était avant au rayonnement infrarouge qui tente de s'échapper vers l'espace. On resserre un petit peu la distance qu'il y a entre les barreaux de la cellule, et c'est encore plus difficile de sortir, ce qui est montré là. Alors évidemment, comme c'est plus difficile de sortir, ça veut dire qu'il y a une partie plus grande du rayonnement émis par l'atmosphère qui retourne vers le sol et qui chauffe encore un peu plus le sol. Et voilà pourquoi, quand on parle du changement climatique, on parle aussi souvent de réchauffement global. C'est tout bête, on met un peu plus d'énergie dans le système et la température d'équilibre augmente un peu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que c'est parce que c'est aussi simple que ça que c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Alors, comme le sol a une température qui a tendance à augmenter, eh bien, toutes les restitutions d'énergie qui croissent avec la température ont tendance à augmenter. Donc, la chaleur de contact a tendance à augmenter. L'évaporation a tendance à augmenter. Donc, vous comprenez déjà pourquoi, dans un climat plus chaud, vous allez avoir un cycle de l'eau plus actif, donc des précipitations globalement plus importantes. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont plus importantes de manière homogène, bien réparties, etc. C'est du reste bien ça qui va poser problème. Et puis vous avez nos infrarouges là qui croissent jusqu'à temps que ce qui passe à travers notre atmosphère un peu plus opaque redevienne égal à ce qu'on avait avant. D'accord ? Donc voilà en gros de quoi on parle quand on parle du changement climatique. Vous voyez que c'est à la fois pas très simple et pas de la physique extrêmement compliqué. C'est quelque chose quand même qu'on arrive normalement à peu près à comprendre. Le point d'interrogation qui est sur le nuage est là pour rappeler que le nuage, comme vous le voyez, il a deux effets contraires. D'une part, il réfléchit la lumière du soleil, hein, un nuage c'est très réfléchissant. Et d'autre part, il est composé d'eau et de vapeur d'eau, et vous allez voir que la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre naturel, il est avant tout dû à la vapeur d'eau. Hein. Donc vous avez un nuage qui, d'un côté, refroidit, en réfléchissant la lumière solaire, de l'autre côté, réchauffe. Et l'un des grands débats au sein des physiciens aujourd'hui, c'est de savoir quel est le bilan net exact de cette affaire. Et alors, les conclusions actuelles, c'est que le bilan net, il n'est pas identique suivant le type de nuage. Si vous avez un nuage haut, de type cirrus ou traînée d'avion, c'est l'effet de serre qui l'emporte. Donc c'est des nuages qui sont globalement réchauffants. Vous avez peut-être vu passer cet entrefilet dans la presse après le 11 septembre, comme quoi les températures nocturnes aux États-Unis, après la diminution de la suppression de la circulation aérienne pendant quelques jours, ces quelques jours-là, vous avez eu une chute brutale des températures nocturnes, et on attribue notamment ça au fait que les traînées d'avion avaient disparu du ciel. Et vous avez les nuages bas qui, eux, par contre, sont des refroidisseurs du climat. Donc si vous augmentez la quantité de cumulus quelque part, eh bien, vous allez globalement refroidir le climat. Donc voilà en gros comment ça marche. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'effet de serre, c'est une très vieille affaire. C'est une affaire dans laquelle les Français se sont particulièrement illustrés, cocorico, puisque vous voyez que le premier physicien français à avoir compris quel était le rôle de l'atmosphère en ce qui concernait le chauffage, en ce qui concerne le chauffage de la surface, c'est Fourier, 1824, donc première moitié du 19e siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une affaire qui date d'hier. Hein. Il y a un deuxième physicien français, alors il y a aussi un physicien irlandais, mais je ne l'ai pas mis parce que les Irlandais ils sont pas beaux, qui a travaillé à peu près aux mêmes époques, qui s'appelle Tyndall, qui a aussi caractérisé les gaz à effet de serre, à savoir la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Donc ça fait un siècle et demi, plus d'un siècle et demi qu'on sait ça. Et puis alors le génie de cette affaire, c'est un monsieur Arrhenius, que vous connaissez tous, bien que vous ne connaissiez pas son nom, probablement pour une partie d'entre vous, parce que c'est l'homme qui a caractérisé les acides et les bases, enfin qui a découvert les acides et les bases. D'accord ? Bon, je pense que les acides et les bases, vous en avez tous entendu parler. Ça vaudra du reste à Arrhenius le prix Nobel. Mais c'est pas pour l'effet de serre qu'il l'a eu. Hein. Et Arrhenius a écrit dans un papier prémonitoire, en 1896, dans les comptes rendus de l'Académie royale des sciences de Suède, que la civilisation industrielle allait engendrer hein, une élévation de température de la planète de l'ordre de quelques degrés. Voilà. 1896. Alors Arrhenius, il était suédois. Je vous rappelle qu'en 1896, la productivité agricole n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc Arrhenius, il a dit « Youpla boum, c'est parfait. On va augmenter la quantité de CO2 dans l'air. On va augmenter les températures moyennes. Adieu les mauvaises récoltes. Tout va se mettre à beaucoup mieux pousser. » Puis en plus, moi, je suis suédois, en Suède, je me pèle. Comme ça, je pourrais aller me baigner en mai et ça sera parfait. Alors, ce qu'Arrhenius ne savait pas, c'était en fait ce que signifiait quelques degrés de variation de la moyenne dans la température planétaire. Il avait pas de référent, il savait pas si c'était beaucoup, pas beaucoup, etc. Lui, il s'imaginait que c'était quelque chose de relativement anodin et plutôt positif. Alors le premier à avoir tenté la modélisation du climat sur la base des seules équations de la physique, c'est un physicien anglais qui n'y est pas arrivé parce qu'il lui manquait un truc indispensable, c'est ça, l'ordinateur. Et en fait, la science climatique, entre guillemets, a enregistré des progrès ces dernières décennies pour la partie modélisation du climat, hein, qui est allée au même rythme que l'évolution des ordinateurs et des satellites. En d'autres termes, la physique qui gouverne cette affaire, elle est connue depuis longtemps. Par contre, les outils qui permettent d'exploiter cette physique, les outils numériques, hein, les ordinateurs, etc., les satellites qui permettent de voir, si de confronter le modèle avec la réalité, ça, c'est des progrès récents. Et une autre chose qui est extrêmement récente, je vous avais probablement pas vu l'année sur la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure en ce qui concerne le CO2, ça c'est une courbe qui a été publiée en 99. Donc en fait l'autre chose qui est extrêmement récent, c'est ce qu'on appelle la paléoclimatologie, c'est-à-dire d'aller rechercher dans des enregistrements du passé, des calottes glaciaires pour les dernières centaines de milliers d'années, des forages dans les fonds marins pour les dernières dizaines de millions d'années, etc. C'est d'aller rechercher dans ce genre d'endroit des témoins du passé qui permettent de savoir, plus ou moins bien évidemment, comment a varié la température dans les époques plus ou moins anciennes. On peut aussi aller faire des trous dans les troncs d'arbres, des trous dans les coraux, enfin on fait des trous un peu partout. Physique, c'est la science du trou. Alors, la Terre n'a pas le privilège d'avoir de l'effet de serre. Vous voyez que Vénus et Mars en ont aussi. Et alors Vénus mérite particulièrement bien son nom, parce que ça, la situation de Vénus est absolument torride. Vous voyez qu'à la surface, il fait à plus de 400 degrés. Et la différence avec la Terre n'est que partiellement due à la différence, à la plus grande proximité du Soleil de Vénus. En fait, si vous prenez la Terre et que vous la mettez à l'orbite, sur l'orbite de Vénus, le raisonnement au premier ordre, sigma T4 pour ceux que ça amuse, eh bien, ça vous amène 30-40 degrés de température moyenne supplémentaire. Et la différence avec les 400 que vous avez à la surface de Vénus, c'est dû au fait que l'atmosphère de Vénus est à 95% du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment l'effet de serre extrêmement puissant qui explique l'essentiel de la température bouillante et torride que vous avez à la surface de Vénus. Alors, sur Terre, comme je vous le disais tout à l'heure, la vapeur d'eau est le principal des gaz à effet de serre. Si vous essayez de quantifier la part des principaux gaz à effet de serre dans la flèche rouge vers le bas, que je vous ai montré dans mon animation tout à l'heure, eh bien, l'eau est à l'origine des trois quarts, sous des formes diverses. Et le reste, c'est essentiellement du CO2 qui est à l'origine du quart restant. Alors, c'est des valeurs approximatives, mais enfin, ça vous fixe un peu les idées. Maintenant, si vous regardez l'augmentation de l'effet de serre dû à l'homme, c'est-à-dire le supplément de flèche rouge vers le bas, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez quelque chose, c'est qu'on ne compte plus l'eau. Pourquoi ? Parce que les émissions de vapeur d'eau, les émissions directes de vapeur d'eau dues à l'homme sont parfaitement négligeables sur une planète qui évapore des quantités phénoménales tous les jours à cause du fait qu'elle est couverte de tiers d'océan. Donc on peut mettre un barrage en eau, on modifie le climat local, c'est ce qui s'est passé en Égypte avec le barrage d'Assouan, on ne modifie pas le climat global. Vous pouvez mettre des aéro-réfrigérants, soit dit en passant, je vous signale que si vous allez voir une centrale à charbon aux États-Unis, vous prenez une photo et vous faites croire à tout le monde que c'est une centrale nucléaire. En fait, les centrales nucléaires n'ont pas le privilège d'avoir des aéro-réfrigérants, vous en avez aussi sur toutes les centrales à charbon. Les aéro-réfrigérants émettent de la vapeur d'eau, c'est parfaitement négligeable au regard des émissions naturelles de vapeur d'eau. On émet de la vapeur d'eau en brûlant des hydrocarbures, parce que vous avez de l'hydrogène dans les hydrocarbures. C'est aussi parfaitement négligeable au regard des émissions naturelles de vapeur d'eau. Donc on peut localement modifier le cycle de l'eau, et même localement le modifier de manière assez drastique. Ça ne change rien au cycle global de l'eau. Vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez avec le cycle de l'eau dans les Alpes, ça ne changera pas la quantité de pluie qui tombe à Rio. Donc il n'y a pas d'influence de l'homme sur le cycle global de l'eau. L'influence des hommes en ce qui concerne les gaz à effet de serre commence avec le CO2. Alors le CO2, l'essentiel, on les met en brûlant des combustibles fossiles, donc c'est ce fameux gaz, charbon et pétrole, ce fameux triptyque. Ensuite, vous avez une contribution qui est liée à la déforestation, tout simplement parce que quand en général vous supprimez une surface forestière dans le monde, le bois qui est coupé est brûlé. Il y en a une partie extrêmement marginale qui finit dans les pays développés sous forme de meubles en teck, ou de ponts en teck, ou de statues en ébène, mais c'est une toute petite partie. L'essentiel de la déforestation correspond à deux phénomènes, c'est la recherche de bois de feu en Afrique et l'obtention de nouvelles surfaces agricoles, en général dans des pays avec une forte croissance démographique. Je vous signale en passant que nous autres Européens, enfin surtout vous, parce que moi il y a quelques générations j'étais un peu moins Européen que vous, on a fait exactement la même chose au cours du dernier millénaire. Si vous regardez la surface forestière en Europe il y a 1000 ans, elle couvrait 70 à 80% du territoire. Et puis sous l'effet de la croissance démographique, on en a coupé la plus grande partie pour faire des champs. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux tropiques. Les exploitants forestiers peuvent aider en faisant quelques pistes bien placées, mais c'est pas eux qui coupent l'essentiel de ce qui est coupé. Alors ça fait deux fois des émissions de CO2. Une première fois parce que tout ce qui est coupé est brûlé, en première approximation, et une deuxième fois parce qu'une fois que vous avez transformé un sol de forêt en sol agricole, vous allez exposer l'humus à l'oxygène de l'air et vous allez en décomposer une partie à vitesse accélérée, et ça aussi, ça vous fait des émissions de CO2. Vous voyez donc là, dans ce terme-là des émissions humaines, une composante agricole forte, puisque c'est l'obtention de nouvelles terres cultivables ou de nouveaux pâturages qui explique ces émissions-là. Après, vous avez des émissions de méthane. Alors, le méthane, c'est pour l'essentiel un gaz d'origine agricole aussi. Le méthane, c'est un gaz qui se forme naturellement quand vous avez un composé organique qui se décompose à l'abri de l'oxygène de l'air. Donc, vous prenez le moindre tas de fumier dans le coin et il engendre des émissions de méthane. Vous prenez des eaux usées dans lesquelles vous avez mis n'importe quoi de végétal et vous laissez ça à l'abri de l'oxygène de l'air, ça vous fait des émissions de méthane. Vous prenez un marécage, ça vous fait des émissions de méthane, et du reste, quand ce méthane s'enflamme spontanément au contact de l'air, c'est un feu follet. Alors, du méthane à cause des hommes, vous en avez dans les marécages artificiels que sont les rizières, c'est une composante, vous en avez dans toute la gestion des déchets, les tas d'ordures, etc. Vous en avez dans l'estomac des vaches, les ruminants, les vaches à quatre pattes, je précise, les ruminants sont une source majeure de méthane sur la planète, et même en France. Pour vous fixer les idées, les émissions dues au cheptel bovin, en France, on a à peu près 20 millions de têtes, hein, sont de l'ordre des deux tiers des émissions dues aux voitures particulières. Donc la consommation de viande de bœuf est un terme qui est très loin d'être négligeable dans les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez aussi une petite partie du méthane, ici un petit tiers on va dire, qui est lié à l'exploitation des hydrocarbures. Vous savez que le méthane c'est le principal constituant du gaz naturel, hein, qui en contient entre 90 et 100%. Et là où vous avez de l'exploitation d'hydrocarbures, vous avez ou bien de l'exploitation directe de gaz, donc vous avez des petites fuites, puis quand vous le distribuez vous avez aussi des petites fuites, c'est pour ça que de temps en temps vous avez un immeuble qui saute. Et vous avez aussi du gaz qui est dissous dans le pétrole. Parce que quand vous extrayez du pétrole, surtout dans les puits éruptifs, il y a un peu de gaz qui est dissous dedans, et il y en a là aussi une partie plus ou moins importante qui part dans l'air en fonction des traitements qu'on lui applique. Donc l'exploitation des hydrocarbures fait aussi un petit morceau. Et enfin un dernier terme du méthane, c'est le grisou, hein. Le méthane c'est le constituant principal du grisou aussi, et les mineurs considèrent que c'est plutôt une bonne idée qu'on ventile les mines, on peut difficilement le leur reprocher. L'exploitation du charbon fait aussi des émissions de méthane. Protoxyde d'azote est encore un gaz très lié. Il y a deux sources en ce qui concerne le protoxyde d'azote, c'est l'agriculture et les bas nylons. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, c'est l'épandage des engrais. Vous savez que les engrais, vous savez probablement tous dans cette salle, sont composés de nitrates, ou plus exactement de nitrates associés à d'autres choses, mais enfin il y a des nitrates. Et quand vous mettez ces nitrates par terre, vous en avez une petite partie qui subit une opération qu'on appelle une réduction et qui se transforme en protoxyde d'azote, qui est un gaz qui est volatile et qui part dans l'air. Ce protoxyde d'azote, il est aussi créé par l'industrie pour être utilisé comme anesthésiant léger dans les hôpitaux. C'est le gaz hilarant, hein, c'est le même. Et enfin, quand je disais qu'il est aussi associé au banylon, c'est parce que vous en avez dans la chimie, dans un certain nombre de chimies, de processus chimiques associés à l'azote, dont la fabrication de l'acide adipique, qui est un des précurseurs du nylon. Enfin, les halocarbures, ce sont des gaz dont la première famille, comme je vous le disais tout à l'heure, est extrêmement célèbre, puisque c'est les CFC. Et ce sont des gaz qui ont la propriété d'être chimiquement extrêmement stables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz chimiquement très stable ? C'est un truc qui réagit avec rien, et s'il réagit avec rien, il n'est pas toxique. Donc, c'est un gaz qui a été utilisé pour des propriétés, enfin, c'est des gaz qui ont été utilisés pour leurs propriétés physiques intéressantes, et qui ont remplacé d'autres gaz utilisés avant, qui avaient les mêmes propriétés physiques ou des propriétés voisines, mais qui avaient le désavantage d'être beaucoup plus toxiques ou beaucoup plus désagréables ou beaucoup plus inconfortables à manier. Alors avant, en particulier, avant de permettre de sentir bon sous les bras, les CFC ont notamment été utilisés dans les chaînes du froid. Donc tous les frigos qui étaient faits dans les années 50, 60, etc. avaient des circuits de fluide réfrigérant qui étaient remplis de CFC, où ça a remplacé l'ammoniac, qui était un gaz qui était beaucoup plus désagréable à manipuler. Et puis maintenant, ça sert, ces gaz servent ou bien directement comme gaz, ou bien liquide comme solvant, mais ils finissent par s'évaporer, dans des tas de procédés industriels divers, dont notamment l'industrie des semi-conducteurs, qui est un émetteur significatif de PFC. Voilà, donc tous les gens dans cette salle, moi compris, puisque j'ai un ordinateur, qui possédons quelque chose avec des semi-conducteurs dedans, eh bien, on a indirectement concouru à des émissions d'halocarbures. Vous en avez aussi dans les circuits de clim des voitures, vous en avez dans les... évidemment dans les circuits des frigos, etc. Alors, une des caractéristiques majeures du changement climatique, c'est d'être un processus global et irréversible. Alors, c'est lié à la physique. C'est pas, encore une fois, un problème de complot mondial, c'est lié à la physique. C'est lié au fait que quand vous mettez du CO2 en supplément dans l'atmosphère, quand vous mettez du protoxyde d'azote en supplément dans l'atmosphère, il va vous falloir attendre un certain temps, et même un temps certain, avant que ce supplément que vous avez mis finisse par s'évacuer. C'est tout simplement lié au fait que ces gaz sont chimiquement inertes dans l'atmosphère, donc les processus d'épuration sont lents. Le CO2, il s'épure simplement par la photosynthèse au contact des écosystèmes terrestres, et puis éventuellement avec des échanges avec l'océan, que je vous expliquerai tout à l'heure. Ça prend du temps, ça va pas vite. Hein. Ce qui veut dire que tout le CO2 qu'on a émis aujourd'hui, par exemple en venant en voiture ici, eh bien il y en a encore une très large fraction qui sera au-dessus de la tête de vos petits-enfants, arrière-petits-enfants et des miens aussi, dans un siècle et dans deux siècles. Voilà, c'est une donnée physique. Ce qui veut dire, et ça explique beaucoup de choses que je vais vous expliquer derrière, que c'est un processus, encore une fois, qui à l'échelle d'une vie humaine est assez fortement irréversible. Alors ça c'est la première caractéristique, c'est un processus très inerte qu'on n'arrêtera pas le jour venu parce que finalement on décide que l'expérience ne nous plaît plus. La deuxième caractéristique, c'est que c'est du coup un processus global. À partir du moment où vous mettez dans l'atmosphère un gaz qui va y rester un ou deux siècles, vous comprenez facilement que l'endroit où on émet ce gaz n'a absolument aucune espèce d'importance, parce qu'il faut de l'ordre de l'année pour que l'atmosphère s'onogénéise dans tout son volume. Ce qui explique pourquoi, en allant faire un trou en Antarctique, on arrive à retracer la composition de l'atmosphère dans son ensemble pour les gaz qui sont dans les bulles. Ça a un sens, parce que ces gaz, ils sont à peu près homogènes, présents de manière à peu près homogène dans l'atmosphère. Ça a deux implications importantes. La première, c'est qu'il n'y a aucun lien direct entre l'ampleur de la pollution et l'ampleur des effets de la pollution, ce qui, là, discrimine fondamentalement le changement climatique d'un certain nombre d'autres problèmes. Si vous êtes un gros cochon et que vous mettez des tas de phytosanitaires dans votre champ, eh bien, le premier à en souffrir, c'est vous. Si vous faites une centrale avec qui crache énormément de poussière, etc., les premiers à être gênés, c'est les gens qui travaillent dedans, etc. Donc, beaucoup de pollution ont cette caractéristique que le pollueur fait facilement partie des premiers pollués. Hein. Là, rien de tel. Je veux dire, il n'y a pas de lien direct entre l'ampleur de la pollution et l'ampleur des effets de la pollution. Il n'y a aucun lien direct. Et par ailleurs, vous comprenez bien que à partir du moment où un seul point d'émission peut servir à enrichir l'atmosphère dans son ensemble, vous êtes condamné à l'action internationale, vous êtes condamné à mettre tout le monde autour de la table et à dire « faut qu'on s'arrange parce que s'il y en a trois qui disent dans un coin « moi je vais faire des efforts » et que d'un autre côté il y a des gens qui disent « moi je m'en fiche, j'en ferai jamais », eh bien vous vous retrouvez dans un système où vous n'êtes pas sûr que globalement ça ira dans le bon sens. Hein. Donc ça pose des tas de problèmes, je veux dire, la politique, les négociations internationales, elles sont inscrites dans la physique du processus. C'est pas seulement une question de donner le bon exemple, etc. C'est vraiment inscrit dans la physique du processus.